pour mieux comprendre le chemin. Pour avancer vers demain, le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources.
Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview.
Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs du Québec, mais surtout de nos communautés. Et ce soir, on a un être tout à fait incroyable. Accueillez M. Normand Tupin. Bienvenue aux Racines des Sources, Normand.
Merci beaucoup.
Bon, toi, Normand, tu restes dans le rang 7 de Saint-Adrien.
Oui.
Ou le rang de José Perrault.
Hein? Oui, c'est le même rang, mais avant, ça s'appelait le 7. Puis après le décès de José Perrault, qui était ma voisine, eh bien, ils ont décidé, le conseil municipal, de nommer la rue en son nom. Et le rang à son nom.
OK.
Fait que ça porte les deux noms, le rang 7 de José Perrault.
Et ça fait combien de temps que tu habites là?
Moi, ça fait 40 ans.
40 ans. Donc, oui. Voyant ton âge, t'es sûrement pas né là. T'es né où? T'es-tu né de la région? T'es-tu de la région?
Non, moi, je suis de Montréal.
Ah, Montréal.
Oui, oui. Puis j'ai quitté Montréal comme, disons, tu sais, on appelait ça le retour aux sources, le retour
Mais
à la
terre. Avant du retour, toi, t'es des années, t'es né dans les années...
En 40.
En 40.
Au début de la Première Guerre mondiale.
T'étais dans
quel... J'habitais dans Villeray, à Montréal.
OK.
C'est un quartier ouvrier.
OK.
Mon père était laitier, par exemple. Le père de mon chum, lui aussi, travaillait pour une autre laiterie.
Laitier, ça veut dire quoi? Il travaillait dans une laiterie?
Dans ce temps-là, les laitiers livraient le lait avec un cheval et une voiture.
Oh,
ça s'appelait la compagnie Gigi Joubert.
Ben, voyons donc.
Et puis quand on était petit, là, ils nous donnaient des petits chevals en carton avec une voiture, puis on pouvait faire des jouets avec ça, montrer comment ils délivraient leur lait. Père, il a fait ça, il passait dans la rue.
Il y avait comme un quartier à lui, il allait chercher le truc, les laits, la laiterie,
la
puis
laiterie,
il allait le porter
oui.
à chaque maison, à oui. chaque matin.
Oui, oui. Puis moi, il m'avait amené à la laiterie une fois, tu prends le cheval, là, puis quand il arrive avec son cheval et sa voiture, il dételle tout, puis il amène le cheval dans des escaliers qui tournent en ciment, puis là, il l'amène dans son box.
Fait qu'il y avait comme un petit quartier à lui qui faisait ça.
Oui, oui.
Puis ça, c'est dans Villeray.
Oui. Puis en plus, lui, là, il livrait pas seulement comme ça. Imagine-toi donc qu'il prenait une chaloupe à Saint-Eustache. Il y avait souvent, pas loin de Montréal, hein, il y avait souvent des inondations. Là, il montait là avec son camion. Dans ce temps-là, il n'était pas réfrigéré. Tout était dans la glace. Là, mon père, il embarquait d'une chaloupe avec... T'avais un rack de 6 bouteilles de lait, 6 pintes de lait en vitre.
Oui, oui, c'était en
avec
vite,
un bouchon ça. Comme ça en carton. Et puis là, il y avait du beurre, puis de la crème, puis tout ça d'affaires, puis il embarquait ça. Puis là, joum. Puis il livrait ça dans les maisons, que les chalets, dans ce temps-là, avant que ce soit tout à fait des maisons, c'était des chalets.
Okay.
Fait qu'il livrait le lait, le beurre, le fromage à ces gens-là.
Mon Dieu.
Et puis il gagnait sa vie comme ça, il revenait. À Montréal,
est-ce
qu'il
gagnait bien sa vie? C'était-tu
correct? Oui, dans ce temps-là, c'était quand même des ouvriers, mais pas, je dirais, haut de gamme, là, mais un peu plus que la moyenne.
Tu sais, tant qu'on regarde des trucs de Michel Tremblay, est-ce que ça ressemble à ça?
Oui, un peu.
Un peu, OK. Oui. Puis avez-vous une grande famille,
Bien, moi, j'avais deux sœurs seulement, on était trois.
OK.
Et puis... on allait à l'école, justement, ben c'était dans Villeray, sur la rue Chambord. Il y avait l'école, comment ça s'appelait, Antem-Véro. Et puis là, l'école des gars était ici, puis l'école des filles était sur l'autre rue.
OK.
Puis donc, dans les cours arrière, les deux cours d'école se rejoignaient avec une clôture frost.
Ah, mon Dieu!
Fait que là, on allait voir les filles, les filles de Noir, et puis là...
Fait que là, c'est l'école primaire. Y avait-tu le... C'était comment que ça s'appelait, l'école un peu plus tard, là?
Pour les métiers?
Ouais.
Ben tu vois, là, à cette époque-là, là, c'était première année à 9e année.
OK.
Là, tu partais puis t'allais ailleurs pour faire ta 10, 11, 12.
OK.
Et puis, okay. Ouais. Puis là, tu pouvais où t'en aller dans des écoles de métiers.
Ouais.
À Montréal, il y en avait. Et puis nous autres, ben c'est ça. Moi, j'ai fait mon primaire là.
Ouais.
Et puis après ça, au secondaire, j'étais allé au Collège Sainte-Marie. J'étais pas loin. J'étais dans le district chez les Jésuites.
OK. Là, quand j'ai même. Fait
éléments latin, syntaxe, méthode. Là, ils m'ont presque mis à la porte. Parce que je suis trop indiscipliné. Mais c'est pas grave parce que là, j'étais allé au Mont-Saint-Louis après parce que c'était scientifique. Parce que moi, le latin puis le grec, j'en avais jusque-là.
OK. Fait.
Fait que là, j'étais allé au Mont-Saint-Louis.
Puis Saint-Louis,
puis là, c'était scientifique. J'ai okay. fait 10, 11 scientifiques. J'ai okay. fini 12 scientifiques à Saint-Henri.
OK.
Ou d'ailleurs, à Saint-Henri, c'est là que j'étais allé faire mon stage quand j'ai fini l'école normale pour être prof au secondaire. Imagine, j'étais allé à Saint-Henri dans mon école où j'avais fait ma 12e année.
Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! OK! Ouais.
T'es super, tu sais, mais là, imagine-toi donc que j'ai appris, là, j'avais un super... Tu sais, il donne un prof pour être responsable de toi, là.
Ouais.
Puis lui, il m'avait donné le conseil suivant. Tu sais, il dit, garde bien ça, mon vieux, là. Il dit, la première expérience que tu arrives dans la classe, la première journée,
ouais.
ça va déterminer toute ton année. Il faut ouais. que tu fasses ouais, attention. Tu,
c'est là que ça clenche.
Fait que là, moi, je dis, OK. Fait que là, je rentre dans la classe. Il y a deux, trois petits jeunes smart qui commencent à faire des fous. Ouais. Hey, j'ai dit, toi, là, chez le directeur. Toi avec, chez le directeur. Wow! Okay. Là, le monde, ils m'ont regardé dans la classe. Ça fait...
OK.
Fait
que ça...
Ah, après ça, mon vieux, là, je les avais
demandé. C'était
correct. Là, faire des farces avec eux autres. Ouais. Ça, hey, OK, c'est fini, là.
C'était réglé.
On travaille.
Puis comment que ça se passait à Montréal à cette époque-là? Là, on parle des années...
Ben tu vois, mettons, moi, en 40, là,
ouais.
Là, mettons, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, on jouait dans la rue dans ce temps-là. Ouais. Tout le monde était dehors. Ils nous foutaient dehors, les parents.
Ouais, ouais, ouais,
ben et oui. puis, c'était le fun parce qu'on était dans la rue. Là, comme on avait des petites voitures à quatre roues, là. Ouais. On se promenait avec un pied sur le bord. Là, il avait un chum Kirby, là, au bord de la rue. Lui, à 8 heures le matin, il était dehors l'été, comme n'importe quand. Puis là, il se promenait. Puis il chantait. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il chantait comme une chanson. Il faisait des sons, en tout cas. Puis là, on le regardait. Il était drôle.
T'sais. C'était-tu dangereux? C'était quoi, Montréal, à cette époque-là? Là, vous viviez des ruelles?
Ouais, moi, j'étais dans... Ah, oh, ben là, tu vois, dangereux. Non, on regarde bien ça. La vie, se passait beaucoup de choses dans les ruelles. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai bâti ma première maison à l'âge de 8-9 ans.
Mon Dieu.
Avec un de mes chums. On ramassait des vidanges. Hein. Le prolard, là... Tu sais, des prolards dans ce temps-là.
Oui,
ben
oui, ben oui.
Bon, ben, on ramassait d'abord, il y avait ça, là, pour le toit, comme ça.
Ouais.
Ça, c'était l'imperméable.
Ouais.
Et puis, on ramassait des boîtes de frigidaire en carton. C'était assez gros. Fait que là, on se faisait un carré avec des 2x4. Puis de la planche sur le toit. C'est... Puis là, on mettait ça. Puis là, on se faisait... On prenait un canif.
Ouais.
On faisait une petite fenêtre qui ouvrait, puis une porte. Puis là, pour que les filles viennent nous acharner, on fermait les...
Puis dans les rues, c'était-tu... Tu sais, c'était-tu dans Red Light, là? C'était-tu,
non, je pas encore. Pas ça, trop, c'était à mon adolescence, là.
Ah, OK.
Tu vois, on est déménagé du quartier de Villeray. Ouais. Puis mon père, il a hérité du restaurant de son père.
Okay.
Qui avait un dépanneur, un restaurant. Non, un dépanneur au début.
OK.
Et puis, on est arrivé là. Et puis là, c'était toute une autre histoire.
OK. Là, tu étais...
c'était dans le Red Light, ça veut dire le quartier...
Ouais, explique, c'est
Saint-Laurent, quoi? Sainte-Catherine, Saint-Urbain, Clark, après ça, bon, Hôtel de Ville.
C'est là qu'on voit, là, comme Billion. À télé, là, les grosses flashs partout, les bars,
qui
appartenaient à des mafieux et tout ça.
Exactement.
Là.
Puis là, nous autres, on allait manger des hot dogs sur Saint-Laurent, là. Ah, ouais. Là, t'as la petite pègue qui joue pas une salle de poule avec des hot dogs stimés à 10 cents.
OK. Ah, ouais. Hein?
Oui, tu sais, puis il était bon.
Mais c'était-tu dangereux ou.
Ben oui, ouais, quand même. C'était la petite pègue qu'il y avait là, mais okay. Il y avait des prostituées aux quatre coins de la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Mais tu sais, nous autres, les...
ouais, vous avez vu.
On était corrects. Mon père, là, nous autres, on s'assoyait sur les chums, les petits gars, là. Sur les marches de la galerie du restaurant, du dépanneur.
Ouais.
Là, il y avait des prostituées qui passaient l'autre bord, nous envoyaient la main, puis d'un coup, là, ils partaient avec un gars, ils montaient, ils redescendaient, ouais. Ils venaient au restaurant, puis ils nous payaient un compte.
Ah!
Ah, ben, t'as
bon. OK, c'était bon.
Pas si pire que ça.
Fait que là, c'est à quel âge, ça, à peu près?
Ça, ben, tu vois, 11 ans, on a déménagé, je suis arrivé là à 11 ans.
Ah, oh, quand
j'ai
même.
J'ai fait 12 ans jusqu'à 19 ans, je
fait
crois.
Fait que là, tu travaillais-tu dans le restaurant?
Oui, je travaillais dans le restaurant. Des fois, je livrais des commandes. D'ailleurs, la rue à côté du restaurant, ça s'appelait la ruelle Joséphine.
OK.
Ça, c'était vraiment le bas, les pauvres de la société, là. Okay. Très pauvres. Là, je me souviens, il y avait une madame assez âgée, une Polonaise, qui parlait presque pas français. Elle était pauvre, là. Elle avait à peu près 20 chats dans sa maison.
Ah.
Là, je rentrais là, ils vendaient nous autres du charcoal. Elle avait juste un petit poêle au charcoal pour se chauffer en plein hiver. Là. Et puis, elle était toujours à côté de son poêle. Là, j'amenais ça sur mon épaule. Puis des fois, j'y amenais du lait ou quelque chose. Là, j'arrivais dans la maison, on voyait une odeur d'urine, de chat. Il y en avait partout, des tablettes, il y en avait partout. Ah!
Puis là, tu as travaillé avec tes parents jusqu'à quoi? 19, 20 ans,
parce que...
Puis après, toi, tu dis que tu avais étudié comme professeur, c'est ça?
Non, moi, ouais, ben, gamin, ça, là, oui, c'est vrai. J'avais fini ma 12e année, et puis après ça, j'étais allé à l'école normale Ville-Marie, dans Ville-Saint-Laurent. Puis là, j'ai fait mon bac en pédagogie, là.
Ah oui, OK. Pour enseigner?
Oui. Puis avant d'enseigner, imagine-toi que là, je savais pas trop quoi faire. Fait que là, je regarde dans les journaux, me cherchais un job. Ah, il demandait un prof d'anglais. Oh. Parce que moi, j'avais appris l'anglais là, sur le tas dans la rue.
Dans
le baseball, en jouant au football, puis tout, tu sais. Fait que là, imagine-toi donc que je m'ai fait engager comme prof d'anglais dans ce petit collège-là. C'était dans un bungalow privé à Longueuil. Dans le sous-sol, il y avait des classes, puis au premier étage, à l'étage, il y avait d'autres classes. Mais moi, dans ma classe, en bas, ça, c'est inimaginable. Vois-tu bien ça? Là, j'enseignais l'anglais, puis il y avait des plywood comme ça.
Ouais.
Un carré, à l'intérieur du carré de la cave. Puis tout le tour, c'était des dactylos. Puis là, les jeunes pratiquaient le dactylo. Puis moi, j'enseignais l'anglais, là. À haute voix, j'étais obligé de... J'ai perdu la voix une couple de fois.
T'as-tu fait ça longtemps, professeur?
Mon 2 ans là-bas. Après ça, j'enseignais en éducation aux adultes. C'était un projet pilote du gouvernement.
OK.
Et puis là, ben, ils m'avaient engagé pour faire de la recherche en enseignement aux adultes.
OK.
Ça, ça a été... J'ai bien aimé ça. C'était inimaginable. Des 7 sur 77 ans. Là, 17 ans...
OK, il était mature,
60.
Un peu plus mature.
Oui, mais il fallait, il y avait du monde de partout, de toutes les places. Les gars étaient sur la drogue. Mon vieux, il était sur l'acide dans le fond de la classe. Okay. Dans ce temps-là, nous autres, je roulais mes cigarettes, filtre, tu sais, avec du tabac, tu tournes au petit tabac, puis là, tu sors ça. Puis il y avait moi,
dans ma
poche de tabac, ben oui, sur mon pupitre.
Ah oui, oui,
pas de trouble. Le monde, ben là, en tout cas, c'était effrayant. À un moment donné, on fait un party de Noël pour les étudiants, la bataille. Il y avait un gars qui était un peu efféminé, mais plutôt bien sympathique. Là, mais les jeunes, ils ne l'aimaient pas parce qu'il était trop spécial. Ouais. Fait que là, moi, la bataille a pogné. Là, il y a un étudiant qui... Moi, je viens pour les séparer. T'sais, voyons, arrêtez ça. T'sais. Là, il me pogne par le cou. Toi, tu t'es chanceux d'être mon prof parce que tu...
Puis là... À un moment donné, t'as-tu changé de carrière?
Ben, comme je te disais un peu tantôt, tu sais, il est venu le retour à la Terre.
Là, on est dans les années 70,
oui,
72,
c'est ça, okay. 70.
OK.
Ouais, là, j'avais fini, là, j'avais enseigné là. Ah oui, ouais. Après avoir enseigné dans le projet pilote, là, j'ai quitté l'enseignement. Je me suis acheté une terre dans les Laurentides.
OK.
Et puis, j'ai bâti une maison avec mon beau-père. J'étais avec ma première épouse à ce moment-là.
Ouais.
Et puis, ça a été bien fun. J'étais là 2 ans seulement, puis il y avait trop de moustiques.
Ah!
Fait que là, c'est pour ça que je t'aboutis ici, à Saint-Adrien.
Pourquoi? Comment?
Mais il y a pas mal moins de moustiques, parce que j'avais rencontré Lucie Benoît puis Réal Daou, qui avait parti une commune dans le rang 8.
Tu les avais rencontrés à Montréal, comme ça?
Oui, d'un party à Montréal, avec Serge Vio, un de mes chums, qui reste maintenant à Amnord. Et puis là, on est allé visiter, puis là, on arrive, là, mon... Tabarnouche, il n'y avait pas de maringouin. Le monde tenu dans les jardins, en train de faire leurs affaires, puis... Voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas de... S'il y en a, mais là, jamais... Hey, nous autres, là, on courait pour rentrer dans la maison tellement qu'on se faisait piquer le sang qui en face.
Fait que c'est là que tu as décidé d'habiter à Saint-Adrien, ou...
Oui, oui, ça, quand j'ai vu ça, on a vendu notre terre.
Okay.
Puis là, on s'est mis à chercher des terres dans la région Saint-Adrien. Il n'y en avait pas à vendre. D'un coup, à Amnord, le village voisin, je trouve une belle ferme de, je pense, c'est 180 arpents. Il y avait une vieille grange, mais quand même. La maison était pas mal finie.
Ouais.
Je l'ai rénovée pendant plusieurs années.
Comment tu as payé pour le fun?
Dans ce temps-là, j'avais payé 180 avec un garage, une grange, la maison... 11 000 $.
Oh, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe!
Puis j'avais payé cher, hein?
C'était
parce que j'étais un gars de Montréal,
ouais.
Je l'ai appris, si j'avais été une personne de la place, c'était 7-8 000 $.
Oh, non.
Mais tu sais...
Bon, c'était correct.
Moi, c'était pas si tu sais, moi, bon.
Fait que là, t'as retapé ça, puis... t'es retour à la terre avec les chèvres,
on a eu des chèvres, des moutons, des poules, des cochons, des canards.
Aucune expérience?
Non.
Rien.
Non. Mais ma blonde, ses parents étaient cultivateurs.
Ah bon.
Fait qu'elle, elle avait déjà très...
Ouais, ça
des vaches. Parce que les autres, il y avait chaque enfant avait sa vache. Eux autres, étaient 18 enfants.
Ah, oh, mon Dieu.
Mais il y avait 12 vaches, mais tu sais, quand même.
Ouais, chacun leur habitué, tour. Là.
Fait que là, elle m'a montré comment traire les chèvres.
Ouais.
Et puis, ça, c'était bien le fun.
Puis là, c'était pour vous autres? C'était,
c'était surtout
autosuffisant.
On vendait un peu d'agneaux.
OK.
Des chevreaux.
Okay.
On partait en auto, Lisette en fosse, puis John Agana.
Ouais.
On partait en station, on mettait 2-3 petits agneaux en arrière avec des chevreaux. Puis on allait vendre ça au marché Jean Talon à Montréal.
Ah, mon Dieu! Ah, OK! Ah, ouais!
Là, il y avait, tu sais, les Italiens.
Ah, c'est ça qui était plus
habitué. Toutes sortes de monde qui aime les agneaux, qui là, puis de, traditionnellement, hein, des
puis...
agneaux.
Là, tu étais en Nord, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le rang 7?
C'est ça. Je me suis mis à chercher. D'un coup, j'arrive dans le rang 7. Il y a une maison qui n'avait pas au feu. Et puis, je vois ça. C'était marqué à vendre, une petite pancarte à vendre. Un esprit de belle place, tu comprends? Avec la vue sur le mont Ham.
Ouais.
Là, je vais voir le vendeur. C'était un encanteur de Amnord. Et puis là, ben, j'ai acheté ça. J'avais juste un petit terrain, 130 par 180.
OK.
J'ai payé ça 300 piastres.
300 piastres. Ben, voyons.
Mais oui, puis là, il y avait l'air d'avoir un ruisseau, mais c'était pas...
Là, il n'y avait pas de bâtisse, il n'y avait rien.
Non. Il y avait une vieille grange.
Il y avait la vieille grange.
Mais moi, j'avais mon truc, mon petit terrain, puis la grange n'était pas à moi.
Ouais. Ah!
Fait que là, moi, tu sais, j'étais pas riche, là. Fait que là, j'ai ramassé toutes sortes de cochonneries. Puis j'ai demandé au propriétaire si je pouvais mettre ça, mon bois, puis tout dans la grange.
Okay.
La grange était après tombée, il voulait mettre le feu dedans.
Okay.
Fait que là, j'ai dit, passez-moi là en attendant. Il dit, OK. Fait que là, tu comprends. Je me suis bâti un petit shack. J'ai vécu dans mon petit shack qui est l'équivalent des petites maisons aujourd'hui.
Mini-maisons, les tiny houses.
Oui, oui.
T'es en avant de ton temps.
Tu couches en haut avec un petit grenier.
Oui, oui.
C'était le fun, certain, ça. Puis là, j'ai commencé, j'avais ramassé tellement d'affaires, j'ai commencé à faire ma première sculpture dans mes temps libres. Mon atelier n'était pas bâti, puis je vivais dans mon atelier parce que je m'avais mon petit shack, je l'avais rallongé pour faire mettre du stock puis faire mes travaux. Et puis là, je travaillais là. Puis là, dehors, bien là, je me suis bâti. C'est un avion qui s'appelait la... D'ailleurs, j'avais changé de nom, la machine volante. Maintenant, tu sais pas, toi qui me l'avais nommé, m'a aidé pour lui trouver le nom. La machine volante. Puis ça, ça
mais fait. Là, avant même de construire ta maison, tu faisais déjà des sculptures?
Non, j'ai commencé là. Je n'avais jamais fait ça. Puis là, j'avais tellement d'affaires dans mon atelier.
Tu avais ramassé tellement d'affaires que ça t'a donné l'idée de ben, commencer
puis là, tu sais, je voulais te dire, ah, regarde, ça ferait un beau personnage. Là, tu ne m'en pas, là. Partais à rire tout seul là, dans mon atelier.
Puis, tu le voyais des
autres. Ça, tu peux pas. Et, fait que là, je rentrais, je mettais ça sur le mur chez nous.
Ouais.
Tu sais, le premier que j'ai fait, c'était les oreilles chromées.
Ouais.
C'était un bonhomme, une poêle à frire, une petite poêle à frire.
Ouais.
Puis là, une poire pour la sauce de la dinde, ça faisait le nez. Des bouchons de bière pour les yeux. Des huîtres pour les oreilles.
Mais ça arrivait, je veux dire, ça, ce stock-là arrivait de où? Le monde venait de porter l'évidence chez vous ou quoi?
Non, bien, au début, c'est moi qui ai ramassé l'évidence.
Ah, c'est toi qui as ramassé.
Puis non, bien, ça, ils sont venus après, beaucoup plus tard, quand j'ai ouvert le musée dans ma grange.
OK, plus tard.
Il m'en apportait. Mais là, tu sais.
Au début, c'est toi qui faisais le tour des vidanges, tu checkais, ah, ça a l'allure, ouais, ça n'a pas d'allure.
Dans ce temps-là, il n'y avait pas les poubelles noires.
Ah.
Fait qu'il mettait des sacs verts puis des affaires à côté.
Puis tu
fait qu'il y avait tout ça, des moteurs, des télévisions. Hey, j'ai fait un montage dans le grand, là, dans le musée. 10 télévisions que j'avais ramassées. Ouais. J'ai sorti tous les intérieurs, gardé les lampes, toutes sortes d'affaires. Et puis là, j'ai fait des petits spectacles. Avec des petits objets, tu sais.
Fait que là, t'as ramassé tout ce stock-là un peu partout. Tu devais faire traiter un peu de fou, là, quand même.
Non, mais c'était le fun. Là, même, j'étais allé à Montréal, mon gérant.
Et il devait y avoir du beau stock, là.
Ouais, wow, j'avais un rack sur mon auto, là. Qu'est-ce que c'est, l'auto, je me souviens pas.
Petite
auto. Ah, une Chevette. Puis là, j'avais un rack, mais t'as mis des planches. Hey, je te dis, des Chesterfield, montait ça sur le poil.
J'attachais
ça avec des descentes de ça, moi.
Fait que tu ramenais toujours un peu de stock de Montréal, puis tu ramenais ça ici, puis tu faisais des sculptures. Tu voyais déjà, toi, des faces, des requins,
ouais.
des...
Je te dis une fois, là, je me passe d'une ruelle à Montréal, puis écoute, je vois comme un hippopotame à terre, en fer comme ça. C'était le dessous d'une pompe à puisard qui était tombée comme ça.
Ouais.
Le dessous était ici. Je l'ai tout simplement dévissé. Puis je l'ai amené, puis j'ai fait une sculpture avec. Mais d'ailleurs, j'ai refusé deux fois de la vendre parce qu'il y a un gars qui collectionnait les hippopotames.
Fait que là, tu fais, t'en fais. À un moment donné, là, t'as plus de place. Là, la grange est à toi parce que t'as acheté le bout de terrain. Là, tu décides de partir un musée.
Bien, avant de faire ça, j'avais fait le tour du Québec avec deux camionnettes.
Ah, oh, non!
Ce qu'ils appelaient une exposition itinérante. De musée incroyable. Et puis là, mon vieux, j'étais allé en Abitibi, un peu partout, en Outaouais, à Montréal.
T'amenais tout Mont-Royal. Ton Mont-Royal.
Ah oui. Mais non, bien là, une centaine, là, tu sais, j'en amenais 30, 40.
C'est pas vrai.
Je travaillais pour le Cirque Québec. Je décorais ces kiosques. Et puis, j'ai fait plein d'expositions. Puis là, j'étais tanné d'être sur la route.
Ah.
Fait que là, j'ai dit, tiens... J'ai retapé la grange pendant 7 étés de temps.
Oh mon Dieu!
Avant de l'ouvrir.
Ah, c'est pas vrai.
Ah oui, tu demanderas à mes chums, on a travaillé en tabarnouche.
Il n'y avait pas le chaperon, je pense.
Oui, Paul, il l'avait relevé. Tu sais, lui, c'est un spécialiste de relever des granges.
Ouais.
Puis là, ben un jour, ben, on l'a ouvert. Il y a plein d'amis qui m'ont aidé à placer les affaires dans le musée.
Puis ça, là, c'est à peu près quelle année?
Ça, c'est en. Attends, 2001.
En 2001.
Ouais.
Là, tu décides d'ouvrir ta grange qui s'appelle le Musée Incroyable.
Oui, oui.
Et puis, c'est ouvert tout le temps, le monde passe.
Non. C'était ouvert juste les fins de semaine au début. Puis après ça, c'était toute la semaine.
OK.
Mais là, j'engageais des étudiants, des projets d'asbestos.
Oui.
Pour recevoir le monde à ma place parce que moi, là, j'ai... Je recevais le monde, puis je parlais, puis ça, c'est mal à la gorge.
Puis là, ça a connu une notoriété, là, parce que tu as passé à la télé, eu plein.
J'ai fait une cinquantaine d'entrevues à la télévision.
C'est avec pas vrai.
Jean-Pierre Coallier. L'autre, le gars qui faisait les nouvelles à Radio-Canada.
Véronique Cloutier.
chose, là, comment ça s'appelait, en tout cas, un beau Brumel québécois.
Puis il passait chez toi, il arrivait chez toi,
non,
puis...
Non, je sais pas, c'est du monde qui m'appelait. Okay, j'étais connu un peu, là, il m'appelait, okay. S'attendu, il m'interviewait au téléphone aussi.
Okay.
Puis là, il demandait, bien, si tu veux venir là, on va t'interviewer. J'allais là. J'étais au stade olympique, en dessous des estrades.
Ouais, ouais, ouais.
Il y avait le Festival international de la jeunesse.
Ouais.
Et puis là, j'avais un atelier avec les enfants, les étudiants.
Ben,
voyons. Puis là, on a plus d'une cinquantaine de sculptures, mon vie d'aujourd'hui, avec toutes sortes d'affaires de papier.
Puis là, on est dans les années 2002, 2003.
Ouais, un petit peu avant. Okay. Parce que tu vois, ma première exposition, c'était au Petit Bonheur, après ça, j'étais en 93, donc 2001. Ouais, en toutes ces années-là, ben, j'ai voyagé. Puis là, quand j'ai ouvert le musée, j'ai invité tout le monde du village, d'Asbestos, de la mer.
J'étais là.
Ah oui.
T'as-tu connu Vaillancourt, genre...
Non, mais sais-tu pas... quoi? La mine m'a engagé pour faire une sculpture en mémoire des ouvriers.
Ouais.
Et puis là, j'avais fait une maquette, mon vieux. Il est fait faire par le dessin par Dan. Il est payé 1000$ pour qu'il me fasse mon dessin.
Ouais.
Moi, j'avais fait ma maquette en plywood, puis toutes sortes de morceaux de bois, puis des hélices, puis ça est 57 pieds de haut.
57
pieds? Mais ma maquette était juste au de même, là. Mais tu sais, au pouce, comparé, là.
Ouais.
Puis là, on était supposé la monter, puis là, il avait commencé à amener le stock que je voulais. Moi, j'ai passé deux étés, là, avec un crayon de photo, prendre tout le stock, la scrap qu'il y avait là, c'était effrayant. Puis là, mon vieux, tout, c'est dommage,
ça
mais...
Ça a tombé.
Quand Pauline Marois a fermé la mine a fermé,
bon.
M. Coulombe, j'ai plus d'argent.
Ah. Puis comment tu l'as eu de temps, ton musée ouvert?
Il y a 10 ans.
10 ans?
Moi.
Puis il y a combien de monde qui a passé à peu près?
Je ne sais pas, mais il y en a passé. Beaucoup venaient des autobus.
Ah oui.
Tu sais, le Saint-Ferdinand, il y avait...
Oui, avec Hugo aussi, puis il y avait...
Les autres sont venus une couple d'années avec un autobus plein de gens âgés. Ils visitaient le musée.
Ouais.
Puis là, dans ce temps-là, mon vieux, j'avais acheté 50 chaises pliantes pour les tabacartes. Puis là, je mettais ça. Puis là, je shootais des diapositives de mes sculptures.
Ouais.
Puis là, il fallait qu'ils devinent. Puis là, je disais, c'est quoi ça dans la sculpture? Ah, c'est une poignée de porte. OK, un point.
Ah oui,
là, c'est non, ça. C'est
pour les enfants c'était...
Puis là, quand après ça, le gagnant, les trois gagnants, je leur donnais chacun une petite photographie plastifiée de mes...
Ouais.
Le monde aimait ça en tabarnouche.
Ça a occupé une grande partie là, de ta vie, mais je sais aussi que tu es un voyageur, vrai, là. Je veux dire, tu as voyagé pas mal, à gauche, pas à droite, de façon autonome. Ouais. C'est quoi ton premier voyage que tu as fait?
Imagine-toi donc qu'on avait eu un gang de chums, mon beau-frère, d'autres amis. Un projet qu'on a fait avec l'ACDI à Ottawa, travail international.
Ouais.
Et puis là, on avait acheté 3 bus Volkswagen. Pour ça, c'était avec les syndicats. Mon beau-frère travaillait à CSN. Moi, j'étais enseignant, puis tout ça, on était animateur. Puis on faisait le tour de l'Amérique du Sud pour rencontrer les syndicats.
Ben voyons.
Puis leur façon de travailler dans les coopératives. C'était surtout visiter des coopératives.
Des coopératives.
Fait que là, mon vieux, on est allé dans Jeun, en Équateur.
Mais là, vous avez été en avion?
Ouais. Non, on est parti de Montréal avec nos 3 bus Volkswagen.
Oh, bon.
On est arrivé en Floride, on les a mis sur un bateau. Et puis, il a traversé eux autres pour l'amener à Caracas, au Venezuela.
Ben,
là, on est arrivé en avion à 11 heures le soir à Caracas. Oh. On arrive sur la rue principale, ça sentait le barbecue, la fumée qui montait. Tout le monde mangeait là, dehors à 11 heures. Là, c'était la vie qui commençait. Là.
Ben oui,
avec nous autres, on arrivait là. Là, tu vois les soldats qui se promenaient avec les carabines.
Oh,
C'était assez...
En quelle année, à peu près?
Bien, ça... attends un peu. J'étais à Amnard, d'ailleurs, j'avais acheté, on est parti, on laissait à terre, là, puis on est parti en 73. Puis ça a duré un an, tu sais, le voyage.
Ouais.
Hey, là, on a passé à travers les Andes, la cordillère des Andes.
Voyons donc.
On a commencé Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie.
Ça, c'est ton premier voyage.
Oui.
C'est pas pire.
Hey, tu sais, on se prenait avec le boss, tu sais, puis
l'Espagnol.
C'est très haut.
Ben oui, puis l'Espagnol.
Oui, puis là, on a appris à parler espagnol aussi, comme de raison. Ben, mais là, tu sais, on a...
Combien de temps?
Ah, un an.
Ah, oh, OK! Mais là, c'est pas tout inclus, là.
Ah non, c'était quelque chose.
Ah, mon Dieu! Fait que ça t'a donné la piqûre du voyage?
Ah ou... oui, après ça, mais là, tu vois, tous les hivers, je partais après.
Ah oui?
Et puis là, j'ai fait 27 pays, 28 pays.
Ah, mon Dieu!
Ben pas tant que ça, là, mais tu sais, toute l'Amérique centrale, là, mais ça a été long, puis là, plusieurs années... Tu sais, j'ai fait comme la première fois, tu sais, tous ces pays-là.
Ouais, toute l'Amérique centrale. Ouais.
Après ça, vu qu'on n'avait pas fait l'Amérique centrale, nous autres, après, je suis retourné au Venezuela, okay. Non, le Costa Rica, j'étais allé plusieurs fois.
OK.
Et j'ai rencontré des révolutionnaires au Nicaragua. Mon vieux gars s'était fait péter les dents dans une embuscade.
Puis on m'a même dit que pendant ce voyage-là, je pense que tu avais même du monde, parce que tu étais financé par l'ACDI, mais il y avait même du monde du FLQ avec ça.
Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là, lui, c'était un autre chum, s'était fait pogner. Je sais pas si tu te souviens, à l'Université Concordia, pour le français, tu sais, le français à l'université, puis c'était
maintenant.
Les gars, ils sont montés une gang de révolutionnaires, là.
Ouais.
Puis là, ils ont tout démoli dans le collège, dans l'université. Puis là, mon Jean-Luc, il pogne une télévision. Non, une télévision. Un ordinateur qu'il y avait dans la pièce. Puis là, il a foutu à travers la vitre qu'elle tombe dans la rue. Puis là, il a essayé de faire photographier.
Oh non, non. Puis lui, il est avec vous autres.
Ben oui.
Ah, oh, mon Dieu.
C'était lui, le mécanicien en chef de nos boss. C'est lui qui checkait toujours le métier. Il fallait timer le moteur pour les hauteurs.
Hein. OK. Donc, c'est ça qui t'a donné un peu le goût. Comme tu disais, après, tu as été en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi, un peu?
Non, je n'ai pas retourné vraiment. Non, j'ai fait l'Asie du Sud-Est.
Plus l'Asie, hein?
Oui, l'Asie du Sud-Est, c'était le fun en tabarnak.
Oui, Vietnam.
Oh, j'ai fait, pas beaucoup. Là, tu sais, le Vietnam, le Cambodge, le Laos.
OK.
Puis la Thaïlande.
OK. Puis tu y allais souvent ou...
Une fois par année, un mois et demi, deux mois, une couple de fois.
Okay.
Et puis là, ben, tu sais, je voyageais toujours en autobus. Je louais pas d'auto, rien.
Wow.
Des hôtels cheap. Et puis, ça me coûtait pas cher.
C'était pas cher. Puis tu voyages encore aujourd'hui?
Oui, oui. Puis là, j'ai arrêté à cause de la COVID.
Ah, ben oui.
Moi. Puis là, ben, c'était trop
compliqué. On m'a dit que t'étais pas mauvais dans le surf aussi.
Oui, ben je faisais du body surf, qu'on appelle, du surf bedden.
Ouais.
Tu sais, des grosses vagues, là, tu arrives.
Oui, oui, oui.
Et puis là, ben, je me suis cassé le coude trois, quatre fois. Mais tu sais, j'étais quand même capable de me revenir, puis c'était pas trop grave.
Ouais.
Mais là, avec les années, m'ont vu, j'ai deux disques
d'aplati
dans le cou.
Ah, à cause de ça?
Là, ça fait 6 mois que je vais chez le chiro. Ça s'appelle la décompression discale.
Oh mon Dieu.
Il m'étire le cou.
Puis là, la COVID étant terminée, est-ce que tu vas y retourner en voyage?
Oui.
T'as encore le goût et l'énergie?
Oui.
Y a-tu un pays?
Oui, mais là, il faut que je retourne dans mon atelier faire des sculptures aussi.
Ah oui! Ça t'a manqué. Ah oui, parce que tu continues quand même tout le temps,
même si le musée. Que j'avais pas eu le temps à faire, tu sais.
Ah mon Dieu.
Bon, pas grave, mais je peux rien chier, pas bien. J'aime ça, fait que je fais ce que j'aime.
Ben, c'est magnifique. Ah, oh, ben, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau témoignage-là.
Merci.
Tant qu'à nous, on va rester. Après la pause, c'est les questions embêtantes.
Notre organisation, CJAN, on peut l'appeler également Coopérative Radio Web Média des Sources, parce qu'à l'origine, la coopérative part de l'idée d'acheter la station de radio CJAN. Le but était de conserver cette station de radio dans la région. CJAN, c'est 1972, Réseau des Appalaches avec des stations de radio à Thetford Mines, Victo, 6 stations de radio regroupées. Des stations de radio qui étaient au AM, qui ont été transférées localement par la suite. Il y a eu la mise en place du FM. À ce moment-là, la propriété était avec Mme Marie-Paul Gendron. Mme Gendron, comme toute personne vieillie, disait va falloir que je trouve la relève, qu'il y ait des gens qui prennent ma place pour pouvoir garder cette station dans notre communauté. Et c'est là qu'est arrivée la coopérative Radio Web en 2017. Alors, la coopérative a été créée avec Sylvie Pion, Steve Pelletier et moi-même. En 2018, c'était la création de la coopérative. Février 2019, nous avons fait l'acquisition de la station de radio. Il fallait, pour rentabiliser la station de radio, amener diversité de revenus. Alors, la diversité des revenus, ça a été l'installation de panneaux publicitaires numériques. Et à ce moment-là, nous avons pu compter sur un revenu supplémentaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la coopérative Radio Web Média des Sources offre le service de la radio, conserve la radio dans notre région. Pourquoi avoir créé l'entreprise à partir d'une coopérative? D'abord, c'est une coopérative de travail. Ce qu'on voulait, c'est que les gens à l'emploi de la station de radio puissent être propriétaires de leur emploi, propriétaires de l'entreprise pour qui ils travaillent, propriétaires de leur destinée. C'était une façon également de pouvoir dire, lorsque les fondateurs de la coopérative vont quitter parce qu'ils s'en vont à la retraite, bien, il y aura de nouveaux membres de la coopérative qui pourront continuer le travail. Et ça, pour nous, c'était essentiel. Pérenniser cette station de radio dans notre région, c'est très important. On a besoin d'avoir des médias qui s'occupent de nous. On a besoin d'avoir des médias qui présentent l'information locale, parce que si on compte sur les stations des grandes villes, on va parler de nous autres uniquement lorsqu'il y a des problèmes. Sinon, oubliez ça, on ne parle pas de nous. Et le seul moyen de pouvoir parler, par exemple, de la Meunerie, de pouvoir parler de Saint-Camille, de Saint-Georges, de Windsor, de Watton, de Val-des-Sources, de Danville, c'est d'avoir notre propre média de communication, un média traditionnel auquel on a ajouté également les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, de façon à pouvoir rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une étape où on progresse. Le chiffre d'affaires va très bien. Nous avons besoin de l'augmenter. Alors, j'ai mentionné un appel aux commerçants lorsqu'ils veulent faire de la publicité de passer par CJAN. Mais les auditeurs, c'est important que vous soyez là. On offre une musique qui est très large. De bons succès souvenirs, musique actuelle, diversité. On est très pro-francophone. Nous avons une belle diversité en ondes. Des animateurs intéressants, intelligents, des animatrices. Le matin, entre autres avec Jasmine, que vous devez écouter absolument. Alors, on espère que vous allez être à l'écoute de CJN 99.3.
Et pendant la pause, notre invité a pigé deux questions embêtantes, dont philosophie spirituelle personnelle. Alors, tu es prêt, Normand? Quel était votre plus grand rêve lorsque vous étiez jeune?
Ah, mon Dieu.
Mon Dieu, c'est déjà
beaucoup. J'en avais plusieurs. Non, mais quand j'étais jeune, là, je voulais devenir vétérinaire. Hein? J'aimais beaucoup les animaux, puis je trouvais que les aider, ça serait le fun d'être avec eux autres, puis les soigner, puis tout ça, en tout cas. C'était ça. Et puis finalement, j'ai fini agriculteur.
Ah, ben, t'étais pas loin, là, à un moment donné, avec les chèvres, puis les...
Moi. Avec les chèvres puis les moutons. Puis d'ailleurs, j'en ai soigné plusieurs.
OK.
Des chèvres qui ont des mammites et puis tout, tu sais.
OK.
C'est quelque chose.
Ah, fait que tu as réalisé.
Moi, ça, je l'ai vécu parce que mon père était cultivateur. Hein. Puis je ne sais pas si c'est ça qui m'avait influencé beaucoup. J'aimais beaucoup quand il me parlait de la ferme.
Parce que lui, il s'est retrouvé à Montréal, mais avant, il était dans les terres,
oui,
à quelque part.
Oui, il était avec son père, là.
OK.
Non, c'est la ferme. Puis.
OK.
Ben, il est parti de bonne heure, lui. De la ferme, il est venu à Montréal.
Okay.
Il a fait d'autres choses.
OK. Et l'autre, roulement de tambour. De quoi êtes-vous le plus fier de votre vie? Oh, question facile.
Je te dis franchement, c'est pas vraiment que c'était de m'occuper de mes petits enfants. Excuse.
Ouais, non.
De mes petits enfants.
Ah, c'est beau.
Ça a été le plus beau.
La plus belle réalisation.
Ouais.
Ah, super. Bien, merci beaucoup, Normand. On peut l'applaudir, tout le monde. Merci. C'est Normand Coupin, Durancet. Et je vais terminer cette émission par une pensée profonde d'Alain Conscient. On s'aperçoit qu'on est vieux lorsque le prix des bougies coûte plus cher que le gâteau. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe et on se revoit une prochaine fois. Merci.
Merci.